Voilà. Est-ce qu'on commence par leur dire pourquoi est-ce qu'on est les deux? Ou est-ce qu'on garde ça pour nous?
Je pense que tu peux leur dire,
Je leur dis. Voilà, on s'est réparti les prédications. Et puis je me suis trompé. J'ai travaillé la même prédication que Matthieu. Donc on a les deux bossé sur le même texte. Et puis quand on discutait, on s'est dit, mais il y a quelque chose qui joue pas, c'est que c'est le même texte au fait. Enfin, donc on s'est dit, bah, autant la faire à deux. Comme ça, on fait profiter de nos préparations à chacun. Donc ce n'est pas deux prédications, c'est une prédication, mais c'est une joie de pouvoir l'amener à deux voix. On a chanté que Dieu était bon, que Dieu nous avait sauvés, et merci pour ce temps de louange, c'est bon de proclamer ces vérités-là. J'aimerais vous emmener dans un autre registre et vous inviter à imaginer, à repenser une situation où vous avez vécu une injustice. Vous avez certainement peut-être cette situation en tête. Maintenant, vous avez été victime d'une injustice. Qu'est-ce que vous souhaitez à l'auteur de cette injustice? Qu'est-ce que vous souhaitez dans cette injustice-là? C'est bon, vous l'avez aussi? Oui. Vous n'osez pas dire vos pensées à haute voix? Gardez cela en tête. Et Matthieu va nous conduire dans la lecture de l'avant-dernière parabole du royaume en Matthieu 13.
Voilà, on lit à partir du verset 47. Le royaume des cieux ressemble encore à un filet jeté dans la mer et qui ramène des poissons de toutes sortes. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent sur le rivage et s'asseyent. Puis ils mettent dans des paniers ce qui est bon et jette ce qui est mauvais. Il en ira de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes et jetteront les méchants dans la fournaise de feu où il y aura des pleurs et des grincements de dents.
Ça, c'est une belle réponse à l'injustice que vous avez vécue, non? Oui, amen. Vous n'osez pas l'avouer, hein? Dans ce texte, il y a quelque chose de choquant. Ce texte se termine de manière abrupte. On parle d'un jugement et de l'enfer. Et on comprend qu'il y a quelque chose de choquant. Finalement, on a chanté l'amour de Dieu, on a chanté sa bonté. Alors comment un Dieu d'amour peut-il laisser ses créatures dans la souffrance éternellement? C'est bien ça de qui il est question dans ce texte. On parle de souffrance éternelle, autrement dit de l'enfer. Alors comment est-ce qu'un Dieu d'amour peut-il amener ses créatures à vivre une souffrance éternelle? Vous avez 5 minutes. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? C'est que Dieu aime tout le monde. Dieu aime les personnes qui sont condamnés. Par contre, on a de la peine à expliquer comment l'amour de Dieu s'unit à son châtiment. On a de la peine à l'expliquer, je crois même qu'on n'y arrive pas complètement. Est-ce qu'on ne peut rien dire? Non. Je pense qu'on peut dire des choses dessus. Mais peut-être en préambule, rappelons-nous que nous sommes créatures face à un Dieu créateur. Et que ce mystère ne doit pas nous empêcher de faire confiance en Dieu. Qui sommes-nous pour dire au Dieu d'amour, l'amour parfait, ce qu'il doit faire? L'amour et la justice de Dieu, deux choses qui paraissent difficiles à concilier. Parfois, on peut avoir l'impression que c'est deux modes de Dieu. Dieu est un jour amour, l'autre jour, il est justice. Un jour, il doit rendre la justice, c'est strict, et l'autre jour, il aime. Deux modes de Dieu. La Bible ne défend pas un Dieu comme cela. Dieu est à la fois pleinement juste et Dieu est à la fois pleinement amour. En théologie, on appelle ça la simplicité de Dieu. Retenez ce terme, on va le répéter après. Simplicité de Dieu. Moi, j'aime bien parce que Dieu est simple. Ce n'est pas compliqué. Il est en même temps amour et en même temps juste. Une fois que ceci est posé, la parabole lève deux points. Elle nous montre d'une part la sainteté de Dieu. Dieu est saint. Il ne tolère pas le péché. Et le deuxième point que la parabole nous montre, c'est la gravité du péché. Le péché, c'est grave. C'est très grave. Le péché conduit à la séparation d'avec Dieu. Les justes, eux, le texte nous dit, bénéficieront de la vie éternelle. On est facilement d'accord avec l'amour de Dieu, mais on va voir qu'au fond de nous-mêmes, nous avons quand même besoin que justice soit faite. Repensez à votre situation. Il y a besoin que justice soit faite.
J'avoue que quand j'ai découvert le texte sur lequel il fallait prêcher, j'étais plutôt content que, par un malheureux hasard, Johan ait déjà réfléchi à ce texte. La fournaise de feu et les grincements de dents, super. On ne parle même pas des bons poissons, qu'est-ce qu'il leur est réservé. La parabole nous dit juste, les méchants vont souffrir. Chouette de prêcher là-dessus. Ça paraît loin de nous quand même, cette image d'un Dieu qui vient à la fin des temps pour juger les méchants. On aime bien quand on parle du jugement divin, parler vite du paradis et de ce qui attend les justes. Et alors ce qui attend les méchants. Et quand on tombe sur une parabole qui nous parle que de ça, qu'est-ce qu'on en fait ? Ben, on accepte que cette simplicité de Dieu, Dieu simple, nous rejoint un petit bout quand même. Ça me fait bien marrer que je pense que c'est le truc le plus compliqué à imaginer sur Dieu, qu'il soit tout en même temps. Ça s'appelle sa simplicité. Bon, ça nous rappelle qu'il nous dépasse. Mais oui, il est amour dans sa justice, il est juste dans sa sainteté, il est tout en même temps, il ne passe pas de l'un à l'autre. Donc dans sa justice, il doit bien y avoir de l'amour quelque part. Et dans ce Dieu d'amour qu'on chante, qu'on aime, prier, adorer... J'ai perdu mes notes.
Prends mon papier.
Eh bien, il doit bien y avoir de la justice quelque part. Et est-ce que ce Dieu d'amour nous rejoint vraiment plus que sa justice ? Est-ce qu'on n'arrive pas à se dire quand même... J'ai besoin d'amour, oui, ça c'est facile à se dire, mais est-ce que j'ai besoin de justice ? Votre situation du début, si vous en avez trouvé une, vous le révèle quand même, on a envie que justice soit faite. Et je crois que c'est normal. Dieu a créé un monde juste. Et il doit être en cohérence parfaite avec ça. Si Johan a relevé la gravité du péché, la sainteté de Dieu, bah, le monde serait complètement incohérent et injuste. S'il n'y a pas conséquence à la fin de nos vies. C'est ça le deuxième point qu'on aimerait amener ce matin. Le jugement dernier, ce n'est pas un moment bizarre ou incompréhensible où on se dit, mince, le Dieu que j'ai connu toute ma vie, tout d'un coup, il va être un peu différent, ça va être le père fouettoir qui applique ses punitions, puis après, c'est bon, dans le paradis, je vais retrouver le Dieu d'amour que je connaissais dans ma vie. Non, pendant le jugement dernier, Dieu reste notre Dieu d'amour parce qu'il répond à un besoin profond que l'humain a. On a besoin de justice. C'est un temps où on pourra reconnaître et pleinement comprendre qui est ce Dieu et à quel point il est cohérent envers nous. Moi, je déteste l'injustice. J'avais un sérieux problème avec ça. Mais j'espère qu'il y a un petit bout où on l'est tous quand même. On voit les films qu'on regarde, souvent le héros à la fin, il vient quand même rétablir la justice. Les seuls films où ça finit mal, c'est les films historiques, évidemment. On a regardé avec Elie ces derniers temps certains films sur la ségrégation raciale aux États-Unis, voilà, avec un héros malheureux, difficile à dire. Et ça finit pas forcément bien dans l'histoire. Mais quand on voit le blanc hautain dire à l'artiste noir aux États-Unis « Oui, oui, la niche là, sous la pluie, au milieu du spectacle, si vous, c'est là-bas les toilettes pour vous, c'est impossible d'aller aux toilettes construites pour les blancs. » Qu'est-ce que ça énerve au fond ! Ça prend au triple l'injustice quand même. On s'y fait et on apprend, hein, la vie est injuste. Mathieu, la vie est injuste, on m'a dit ça toute mon enfance. Moi, quand il y avait des bagarres à l'école à 5 ans, et pour des trucs vraiment petits, quand il n'y avait pas de problème, j'allais quand même défendre celui qui me semblait être la victime, évidemment. Ce n'était pas toujours la bonne, en l'occurrence. Et finalement, j'étais dans toutes les embrouilles. Et les profs finissaient par me dire « Ah, mais toi, tu finiras flic, c'est sûr, tu te fous toujours dans les embrouilles quand il n'y avait pas besoin. Il faut accepter, Mathieu, la vie est injuste. » Ouais, c'est vrai. Il y a une partie, si tu veux être adulte et vivre dans ce monde, il faut accepter un bout. Oui, dans ce bas monde, il y a une injustice qui reste. Mais osons croire que notre besoin de justice sera assouvi un jour, que l'univers que Dieu a créé, avec le futur qu'il nous réserve et le jugement dernier, c'est un univers juste où Dieu veut faire triompher et régner sa justice dans son amour, en respect et en cohérence avec sa sainteté. Parce que le péché est une injustice envers Dieu. Il y a une deuxième raison pourquoi c'est bien qu'on prêche à deux, c'est parce que j'ai plus de voix. Incroyable. Merci. C'est pour tous les cafés que je te fais la semaine, c'est ça, hein ?
Oui.
Il y a nécessité pour Dieu de rétablir la justice. On lit ça chez Paul quand il rassure les esclaves en leur disant « Restez soumis à vos maîtres, n'ayez pas peur de l'injustice dans ce monde, parce qu'un jour, Dieu, la justice, il la rétablira. » Et il leur promet en Colossiens 3 « Celui qui agit mal recevra quant à lui le salaire que méritent ses mauvaises actions. » Car Dieu ne fait pas de favoritisme. Dieu fera justice. Osons croire, osons accepter que ce besoin de justice, des fois un peu enfoui pour survivre dans ce monde, et pas être un bête élève de 5 ans qui se met dans toutes les embrouilles. Osons croire que ce besoin de justice, oui, Dieu l'assouvira. Dieu fera justice. Et la Bible nous rappelle aussi, en parlant du jugement dernier, souvent, il parle de livres qui sont ouverts ou de registres célestes, où Dieu prend des notes de ce qui se passe. Donc c'est bien pour les ouvrir un moment et dire « Ah ben là, je dois faire justice, je vois ce qui s'est passé, il y a péché et tu t'en es pas remis à moi. » Alors oui, feu éternel. Ça reste dur, hein. Qu'est-ce qu'on fait ce matin de ce Dieu juge qui enverra une partie des poissons dans le feu éternel ? Une partie des gens qu'on a côtoyés seront châtiés à jamais. Bah, au lieu de ne pas oser imaginer que c'est bien notre Père Céleste, notre Père d'amour, notre Dieu Saint qu'on loue, oui, c'est bien lui, le Dieu juge, le même. Ce Dieu créateur a créé un univers profondément juste. Et notre désir de justice, qu'on doit parfois faire taire, sera assouvi. Dieu fera justice. Osons placer notre confiance dans ce Dieu-là, au lieu d'enlever quelques parties à Dieu qui nous dérangent. Lui laisser cette place parce qu'elle nous permet de vivre apaisés face à certaines injustices, comme ces esclaves qui vivaient l'injustice toute leur vie, se raccrocher aux paroles de Paul. Dieu fera justice un jour, les mauvaises actions auront un jour punition. Ça nous permet aussi de pardonner librement, pardonner à celui qui mérite les foudres du ciel. Personne n'a osé le dire à haute voix tout à l'heure. Mais moi, à 5 ans, je suis sûr que je l'aurais dit. Le feu éternel, ceux qui font l'injustice, c'est sûr. Eh bien oui, il s'en occupera. Dieu s'occupera de faire justice. Donc nous pouvons pardonner ici-bas, parce que ce n'est pas à nous de gérer notre propre justice. Et finalement, ça nous permet de vivre dans un rapport à la justice apaisée. Puisqu'on a un Dieu qui fera justice, alors on peut chercher à vivre dans sa justice à lui. Je n'ai pas besoin de me faire justice moi dans ce monde pour que moi je sorte gagnant, mais je peux chercher à vivre selon ses valeurs à lui, les valeurs du royaume, celles que la Bible m'enseigne, qui détonnent parfois tellement avec ce monde et on a l'impression d'être perdant, ceux qui tendent l'autre joue. Mais en fait, si on sait qu'on tend l'autre joue, si on sait qu'on détonne et qu'on, au plan humain, on a l'air peut-être faible ou perdant, ce n'est pas vrai, on le sait. On obéit aux valeurs de celui qui aura le dernier mot. Je peux vivre dans sa justice, selon ses valeurs, parce qu'il enverra les méchants en enfer, parce que Dieu est justice. Mais en fait, Johan, c'est quoi l'enfer ?
Ah ! C'est quoi l'enfer ? Ça fait un petit peu comme c'est pas sorcier. Faites, Jamie, c'est quoi l'enfer ?
Tac !
C'est parti, Marcel ! Vous avez la ref ? C'est quoi l'enfer ? La parabole nous amène des réponses à notre besoin de justice. Nous l'avons vu avec Matthieu. Un jour, Dieu fera justice. Relisons ensemble le verset 49. Ce verset qui dit que les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes. Puis en la suite, je ne l'ai plus en tête, mais voilà, les méchants vont aller dans l'étang de feu. Tu avais dit quoi avant ?
Dans le feu éternel. Éternel.
Feu éternel, voilà. Les méchants vont aller dans le feu éternel. Il y a quelque chose de terrible, il y a quelque chose de choquant dans cette image. J'aimerais dire que c'est normal que la notion d'enfer et de jugement dernier vienne nous choquer. Dieu met dans notre cœur un amour pour les êtres humains qu'il a créés à son image. Et cet amour-là va nous faire réagir à cette doctrine du jugement dernier et de l'enfer. C'est normal, on n'a pas envie que les gens subissent un châtiment éternel, soit dans le feu éternel. Alors c'est normal d'éprouver une certaine tension quand on parle de cette doctrine de jugement dernier et d'enfer. Nous sommes habités par l'amour de Dieu, une bonne chose, normalement. Et cette doctrine vient nous choquer. Peut-être penchons-nous sur ce qu'est l'enfer. Comment est-ce que vous imaginez l'enfer ? Sans Dieu. Chaud. Ouais, c'est chaud, ouais. Avec Satan et tous les démons. Douloureux. Souffrance. Solitude absolue. Sans lumière. Inespérance. Toutes ces choses sont justes. Moi, j'avais souvent imaginé l'enfer comme au Moyen-Âge, au fait, où c'était un lieu physique où il y avait du feu et il y avait Satan et les démons qui torturaient les gens. J'ai eu le malheur d'acheter une fois un livre qui s'appelait 23 minutes en enfer. C'est un gars qui a eu une vision de l'enfer et qui la relate dans ce livre-là. Et c'est terrible, je n'avais pas dormi, j'étais ado quand j'avais lu ça. Ouais, enfin, quand on s'intéresse à l'enfer, il faut être déjà aimer la théologie, puis c'est souvent un sujet un petit peu d'ado quand même. Les sujets comme ça, on peut un peu creuser. Mais ce livre ne m'avait pas stimulé. Et puis, j'ai creusé à nouveau ce que c'était l'enfer, et j'en viens à vous proposer une interprétation. Libre à vous de prendre, de ne pas prendre. C'est une lecture parmi d'autres. Il y a des débats, bien sûr. C'est une lecture que je vous propose. Jésus nous dit dans Matthieu 24 que l'enfer, c'est d'abord un lieu qui est destiné au diable et à ses anges. C'est d'abord pour eux. C'est-à-dire que le diable et ses anges seront eux aussi jugés. Ils vont passer en jugement. Ce qui me laisse penser que ce n'est pas un lieu que le diable a créé et où il est souverain. Dieu reste souverain sur l'enfer. L'enfer, c'est le lieu, c'est la suite de son jugement sur le diable et ses anges et sur les méchants. Dieu reste souverain. Ce n'est pas le diable qui règne dans ce lieu. Dieu reste souverain sur l'enfer. Le diable est jugé, il est condamné. Ce n'est pas non plus un monde parallèle où on ne sait pas trop ce qui se passe. C'est un lieu où la peine est consciente et éternelle. En enfer, les gens sont conscients de leur peine, ils sont conscients de leur faute, d'avoir manqué la cible. Et ils sont conscients que ce châtiment est éternel. Imaginez ceci. La Bible nous parle d'un jugement dernier où tous les humains passeront devant Dieu. La parabole nous le dit, certes, les justes seront sauvés, les méchants iront en enfer. Mais ça veut dire que les méchants seront passés devant Dieu. Ils ont été jugés par Dieu. Ils auront vu Dieu. Ils auront vu la majesté et la grandeur de Dieu. La Bible nous dit que toute langue confessera que tu es Dieu. Même les méchants confesseront que Dieu est Dieu. tout le monde, toutes les créatures reconnaîtra la seigneurie de Jésus-Christ. Ils auront goûté à quelque chose de délicieux. Ils auront confessé que Jésus est Seigneur. Mais ce à quoi ils ont goûté de délicieux, ce à quoi leur cœur aspire, ne leur sera pas permis.
Et alors on aimerait maintenant replacer ce moment du jugement dernier dans le plan global de la rédemption de Dieu, l'histoire de l'humanité, pour réaliser son plan de paix, de bonté, d'amour que nous lisons dans la Bible. Dieu doit faire justice, c'est une étape nécessaire au plan merveilleux que la Bible nous montre. Alors quand je réfléchis à cette réalité-là, ce qui est dur pour moi, c'est de réaliser que en fait, cette étape-là est de faire partie des poissons qui sont rejetés. En tant qu'homme pêcheur, je ne mérite rien de mieux que ça. Pourquoi moi, j'aurais le droit à quelque chose de mieux alors que je sais très bien que ma vie aussi, elle est faite d'actions et d'agissements loin de ce que Dieu voulait. En fait, à part un Nazaréen une fois dans l'histoire, tout le monde mérite de faire partie des poissons rejetés. En prenant du recul, si on regarde à l'histoire de la Bible, depuis la chute, on le sait, l'humain fait le mal, il fait ce qui est contraire au désir de Dieu. Ça nous est impossible de ne pas pécher. Ce qui est incroyable, c'est que dans cette catastrophe, parce que l'histoire biblique ressemble quand même un bout à une catastrophe, on le verra tout à l'heure, Dieu n'est jamais pris au dépourvu. Et c'est important de placer ce moment-là comme une étape qui fait partie d'un plan voulu et désiré par Dieu. Il n'est pas en train de courir après nos péchés et s'affoler des milliards d'humains depuis deux millénaires et plus qui font faux. On n'a pas un Dieu qui depuis le ciel nous regarde et voilà, encore raté, et non, encore un péché, ah, je suis débordé. Hier, on a regardé Bruce Tout-Puissant avec une équipe de jeunes et ça m'a fait penser à ça exactement. Imaginez, chaque péché, c'est une notification dans la boîte mail de Dieu. T'imagines la boîte mail qui explose, 7 milliards de gens qui font faux tous les jours. Ah, hop, Jean-Eudes a fait du mal. Hop là, Bartholomé a insulté quelqu'un au volant. Ouais, j'ai pris des noms pour être sûr que ça n'y ait personne ici. Moi, quand j'ai 6 mails et 3 WhatsApp en une semaine, je suis débordé. Imaginez ça, 3-4 semaines à la suite, c'est l'épuisement assuré. Surtout qu'il y a une certaine redondance quand même pour Dieu. Depuis des millénaires, on n'a quand même pas inventé... Si on a quand même été capable de faire de pire en pire, peut-être. Mais le péché, ça reste encore et encore raté face à Dieu. Si on regarde à nous, je suppose, avec un peu d'honnêteté, on peut le voir dans nos vies, mais si on regarde à la Bible, ça nous montre à peu près la même trajectoire. Hein. Jardin d'Éden, ah non, hop, ils ont mangé le fruit. Bon, une civilisation alors, ah non, c'est carrément pire, on recommence à zéro avec Noé, déluge. Plus tard, Babel, ouais, ça sonne bien. Ah non, ils se prennent pour Dieu, ils construisent une tour, ils essaient d'arriver à ma hauteur. Malin, les humains. Dieu se choisit un peuple, 17 livres de prophètes, pour nous dire que le peuple n'est pas capable de rester fidèle à Dieu. Et on arrive déjà au bout de l'Ancien Testament. Pas mal la trajectoire. Alors, dans cette histoire de la rédemption, est-ce que Dieu est dépassé? Est-ce que Dieu court derrière les humains à se dire, et voilà, encore, je teste des nouveaux trucs, un bateau, un peuple. Quand même, il a de l'imagination pour essayer de sauver son humanité. Non, évidemment, dans la Bible, nous apprenons à connaître, oui, un Dieu patient, un Dieu bienveillant, un Dieu qui redonne une chance à ses enfants. Mais la cause de cette patience, de cette bienveillance, ce n'est pas nos bêtises. Ce n'est pas parce qu'on fait faux qu'il se dit, ah bon, bah alors, ouais, ok, peut-être je fais un nouveau geste envers eux. Non, la cause de cette patience, la cause de cette bienveillance, la cause d'un Dieu qui rejoint son peuple encore une fois, qui nous pardonne encore une fois, qui efface l'ardoise à chaque fois qu'on se met devant lui. C'est parce que lui l'avait décidé d'avance, parce que son plan de rédemption, il l'a pensé avant même la création. Il savait qu'on en aurait besoin. Et Pierre nous dit quelque chose d'assez époustouflant dans sa première épître. Je vous lis 3 versets. Dans vos prières, vous appelez Père celui qui juge impartialement tout homme selon ses actes. Par conséquent, pendant tout le temps de votre séjour en ce monde, que la crainte de Dieu inspire vos conduites. Il a fallu que Christ, tel un agneau pur et sans défaut, verse son sang précieux en sacrifice pour vous. Dès avant la création du monde, Dieu l'avait choisi pour cela. Dieu l'avait connu d'avance. Et il parut dans ses temps pour agir en votre faveur. Dieu avait connu d'avance Christ. Il l'avait déjà choisi pour nous sauver avant la création du monde. On va pas essayer de faire une construction systématique de cette phrase, mais juste de prendre un peu de recul et se dire, waouh, on a un Dieu qui nous dépasse tellement. On a un Dieu qui a un plan parfait, et nous, en fait, on fait que rentrer dedans comme il savait que l'humain allait faire faux. Il savait qu'on allait avoir besoin de lui. Et il avait déjà préparé son plan. Le jugement, c'est donc pas un moment où Dieu, dépassé après trop de temps, il se dit, bon, ok, alors il faut que je trie maintenant, puis ceux qui ont réussi, tant mieux, ceux qui n'ont pas réussi, tant pis. Ce serait dur d'imaginer un Dieu comme ça. Le jugement divin aurait un goût d'échec. Non, osons dire que la réalité du jugement divin, oui, nous dépasse complètement. Mais rappelons-nous que c'est une étape qui fait partie d'un plan de bonté, d'amour, pensé pour notre salut. Et que ce plan de rédemption est bon. Et qu'évidemment, il pointe vers un événement, la croix.
Dis donc, Jamie, c'est quoi la croix ? Non, c'est
parti. Chauffe, Marcel.
La parabole que nous avons vue nous parle surtout du sort des méchants. Ils iront dans le feu éternel, et la parabole se termine comme ça. On a choisi de ne pas terminer notre prédication comme ça. Parce que la parabole mentionne aussi les justes, ceux qui ont cru en Jésus. Les justes sont ceux que Dieu sauvera. Et comme Matthieu l'a dit, à la croix, c'est l'acte ultime où l'amour de Dieu se manifeste, où Dieu rachète l'humanité. La croix nous révèle la sainteté de Dieu. On revient à une notion du début là, sainteté de Dieu. Dieu est tellement saint qu'il ne tolère pas le péché. Et la croix nous révèle toute la sainteté de Dieu. Le péché et le mal, lui, sont insupportables. Le péché et le mal n'ont pas de place dans la présence de Dieu. Dieu est tellement saint que la vue du mal, lui, est insupportable. Et à plusieurs reprises dans la Bible, on peut entendre des séraphins. Des séraphins, c'est des espèces d'anges. Enfin, ils ont six ailes, enfin, c'est un truc un peu spécial, mais les séraphins, ils ont vocation de manifester la sainteté de Dieu. Puis à plusieurs reprises dans la Bible, on voit les séraphins qui chantent « Saint, Saint, Saint est le Seigneur ». Beaucoup chez Ésaïe, beaucoup dans l'Apocalypse. Dieu est saint. Et nous avons aussi vu que le péché a des conséquences. Le mal engendre le malheur et va au-devant d'une punition. D'un châtiment éternel. La croix nous révèle ainsi toute l'horreur du mal que porte le Seigneur. Quand Jésus est à la croix nous révèle toute l'horreur du mal qu'il porte. Dieu ne peut que se détourner du péché et de celui qui porte le péché. D'où le cri de Jésus à la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Dieu ne peut que se détourner du péché et de celui qui le porte. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? La croix, dans son horreur même, montre tout l'amour de Dieu qui souffre pour nous et à notre place. La croix montre aussi toute la sainteté de Dieu qui ne peut supporter le péché qui doit être expié. Tout entière, la Bible proclame l'amour inconditionnel de Dieu et sa sainteté qui demande à ce que la justice soit accomplie. Pour les justes, Christ a porté la punition qui leur revenait. Les justes, eux, n'ont pas à avoir peur du jugement parce que Jésus a porté la punition qui leur revenait. Paul dit, je crois que c'est dans l'Épître aux Galates, il est devenu malédiction pour nous, à notre place. Et nous n'avons pas à subir ce même sort. Mais nous pouvons être considérés comme justes, pas parce que nous faisons le bien, mais parce que Jésus a pris sur lui la punition qui nous revenait. Amen. Je te laisse conclure, je viens de les réveiller.
Cette parabole commençait donc par « Le royaume des cieux ressemble ». Ressemble à quoi ? Le royaume des cieux ressemble à un royaume de justice. Et cette justice s'accorde parfaitement avec l'amour de Dieu, ne s'y oppose pas. Cette justice vient rejoindre un désir et un besoin profond que nous portons. Et cette justice, finalement, sans la croix, elle nous envoie tous au mauvais endroit. Mais la croix nous épargne. Le feu éternel, la croix, nous rend juste. Christ s'est rendu injuste pour nous. Alors, on voulait vous laisser sur une question d'ouverture, de conclusion. En quoi croire au jugement divin change-t-il notre manière de croire ? En quoi croire au jugement divin change-t-il ma manière de croire ? Je vais juste prier pour conclure. Seigneur, merci parce que tu es un Dieu créateur. Tu es le Dieu qui a créé un univers parfait et profondément juste. Merci parce que dans ton amour, tu as voulu, avant même de créer, préparer un plan pour que nous puissions être déclarés justes devant toi. Merci pour ce statut de justice que dans ton règne, nous recevons par notre foi en Christ, par notre pardon devant toi, notre humilité. Seigneur, viens nous rejoindre dans ce temps de scène où peut-être, oui, nous pouvons confesser nos péchés, nous pouvons confesser que c'est par la croix que nous sommes rendus justes. Nous pouvons confesser le Dieu juste que nous avons et son règne de justice qui vient. Mais Seigneur, merci pour le Dieu que tu es, merci pour ton plan parfait. Et merci pour ton sacrifice qui nous rend juste devant toi. Amen.